Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce jeudi 22 juillet 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Une frappe américaine a fait 3 morts dans le nord-est de la Syrie. Le pass ne passera pas, nouvelle manifestation alors que l'Assemblée nationale examine la loi. En Tunisie, 17 corps est repêché et 160 immigrés secourus au large des côtes sud-est. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran et la Turquie, en tant que deux grandes puissances de la région et du monde islamique, ont un rôle important à jouer dans la résolution des problèmes régionaux, a rappelé le président iranien Hassan Rouhani lors d'une conversation téléphonique ce mercredi 21 juillet avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, soulignant la nécessité de poursuivre la coopération irano-turque dans les domaines économiques, politiques, culturels et internationaux. Le président iranien a déclaré: l'Iran et la Turquie ont une approche responsable et coopérative envers diverses questions et défis mondiaux et régionaux qui touchent le monde islamique. Au cours de cette conversation, le président turc a qualifié les relations entre les deux pays de sincères et en développement et a souligné la nécessité d'une coopération continue entre les deux pays à l'avenir. La Turquie et l'Iran partagent les mêmes positions et coopèrent ensemble sur d'importantes questions régionales et internationales, a encore reconnu le président turc. Il a apprécié à cette occasion les actions et les efforts du président Rouhani pour développer et approfondir les relations stratégiques et la coopération entre Téhéran et Ankara au cours des 8 dernières années et a plaidé pour la poursuite de cette coopération et pour l'amélioration des relations bilatérales à l'avenir. Les chasseurs israéliens et américains ont bombardé des zones à Homs, à l'ouest, et à Rasaka, au nord-est de la Syrie. Selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, les défenses aériennes du pays ont fait face aux agressions ennemies dans le ciel de Homs. Certaines sources d'information ont annoncé que des avions de chasse israéliens avaient attaqué des cibles dans la province syrienne de Homs pour la 2e nuit consécutive. Al-Arabiya a prétendu que la base aérienne d'Al-Shayrat à Homs avait été la cible des frappes aériennes. Quelques minutes plus tard, Sana a publié la vidéo et les images des attaques israéliennes et a écrit en la matière que la défense aérienne syrienne avait contrecarré la frappe israélienne. Mercredi matin aussi, Israël a attaqué une région dans le sud d'Alep. La DSA syrienne a repoussé l'agression de l'armée israélienne. Al-Arbaliya de la Syrie a par ailleurs rapporté mercredi soir que des avions de chasse américains avaient attaqué une zone dans le nord-est de la Syrie. 3 personnes ont été tuées. L'attaque a pris pour cible une maison de la commune de Kerbat Jamous dans la campagne de Hasaka, tuant 3 personnes et en blessant plusieurs autres. Selon Sana, Avant d'être touchée par cette frappe, la maison avait été encerclée pendant plusieurs heures par les forces démocratiques syriennes FTS. L'armée américaine et les FTS occupent des zones riches en pétrole dans l'est de la Syrie. Les forces américaines sont cantonnées dans plusieurs bases militaires en Syrie, dont les plus importantes se situent à proximité du champ pétrolier d'Al-Omar et du champ gazier de Conoco, dans les provinces de Deir ez-Zor et d'Al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie. Selon des sources officielles syriennes, les États-Unis ont jusqu'à présent transféré illégalement des centaines de pétroliers transportant du carburant et des produits agricoles syriens vers leur base en Irak. Par ailleurs, un civil est tombé en martyr et 3 autres ont été blessés dans des attaques menées par les forces d'occupation turques et leurs mercenaires de réseaux terroristes aux armes lourdes contre l'autoroute M4 au nord de la ville de Raqqa. La Syrie a vivement condamné les pratiques israéliennes contre la mosquée d'Al-Aqsa et les fidèles palestiniens et a appelé les pays du monde et les Nations unies à mettre fin à ces pratiques hostiles et inhumaines. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a indiqué que les pratiques contre le peuple palestinien avaient été menées avec le soutien, la protection et sous la direction du gouvernement israélien. Le ministère a ajouté que le gouvernement de la République arabe syrienne considère ces pratiques israéliennes contre la mosquée d'Al-Aqsa et les fidèles comme actes immoraux qui reflètent la véritable image de l'entité sioniste. Le ministère a fait noter: la Syrie condamne avec les termes les plus sévères les pratiques israéliennes et réclame aux autorités de l'occupation de respecter les droits de l'homme du peuple palestinien à Al-Rots et à la mosquée d'Al-Aqsa et partout en Palestine occupée, et appelle les pays du monde et les Nations unies, y compris le Conseil de sécurité, à mettre fin à ces pratiques inhumaines et à soutenir le peuple palestinien pour obtenir ses droits historiques légitimes, y compris l'établissement de son État indépendant sur les territoires palestiniens et la mise d'une fin à l'occupation de tous les territoires arabes occupés en Syrie, en Palestine et au Liban. En France, alors que l'Assemblée nationale a commencé ce mercredi 21 juillet l'examen du projet de loi relatif à la crise sanitaire, des centaines de personnes, d'après les vidéos, ont défilé dans les rues de Paris pour contester l'adoption de la nouvelle loi. Celle-ci doit inclure l'obligation vaccinale des soignants avant le 15 septembre, l'extension du pass sanitaire ainsi que l'isolement obligatoire en cas de test positif. Les manifestants qui se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale scandaient « le pass ne passera pas ». Parmi eux, certains portaient des gilets jaunes. À Chambéry, un groupe de personnes se sont introduites dans l'hôtel de ville et ont même décroché le portrait d'Emmanuel Macron selon un communiqué de la mairie. Les manifestants à Chambéry ont fait les titres en pénétrant dans la mairie de la ville pour y décrocher le portrait de Macron. La vidéo de cet acte a fait le tour sur les réseaux sociaux. Les opposants à la mesure sont rentrés ce 21 juillet dans l'hôtel de ville de Chambéry, où ils ont décroché le portrait de Macron, à en croire une vidéo diffusée sur Twitter. À Strasbourg, la manifestation contre l'extension du pass sanitaire a eu lieu devant la Cour européenne des droits de l'homme. Lors de son allocution le 12 juillet, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il pourrait poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français en fonction de l'évolution de la situation, mais qu'il avait préféré faire, pour l'heure, le choix de la confiance. Lundi 19 juillet, le Conseil d'État a validé en grande partie le projet de loi du gouvernement sur l'extension du pass sanitaire ainsi que la vaccination obligatoire des soignants. L'avis consultatif émis par les hauts fonctionnaires du Palais Royal ne modifie en effet que très partiellement les dispositions prévues par le gouvernement. Des unités de la marine tunisienne ont réussi dans la nuit de mercredi à jeudi à repêcher 17 corps et secourir 160 immigrés clandestins qui se trouvaient à bord d'une embarcation naviguant illégalement au large des côtes sud-est de la Tunisie. Le chef de l'autorité régionale du Croissant Rouge dans la province de Médnine a déclaré que les unités de la marine tunisienne ont retrouvé les corps qu'elles avaient récupérés à proximité du moteur du bateau, échoué au large de la ville côtière de Zarzis. M. Slim m'a précisé que les migrants secourus étaient de nationalités différentes, la plupart originaires du Bangladesh. Ils ont été transférés au port commercial de Zarzis pour leur permettre de recevoir les soins nécessaires dans l'attente de leur trouver un espace adéquat pour les abriter avant d'être soumis à la quarantaine obligatoire. Auparavant, le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué diffusé ce mercredi le démantèlement d'un bon nombre de tentatives d'immigration illégale vers les côtes européennes, au cours desquelles ils ont arrêté 131 personnes, dont la plupart sont de nationalité africaine. Après la consultation du parquet, ces émigrés ont été remis aux autorités compétentes pour prendre des mesures juridiques à leur encontre, a noté le ministère tunisien de l'Intérieur. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Syrie, Liban, le terrorisme économique échoué. Les États-Unis, qui ont échoué à mettre à genoux le peuple et le gouvernement syrien, ainsi que l'axe de la résistance, n'ont désormais d'autre alternative que de recourir au terrorisme économique visant à créer le fossé entre les nations et le gouvernement de l'axe de la résistance. De l'avis des économistes du Moyen-Orient, leur machination sera à coup sûr vouée à l'échec. Téhéran est résolu à voler au secours de la Syrie et du Liban, et c'est ce qu'a par ailleurs reconnu la publication américaine Foreign Policy. Se rapportant aux récentes guerres verbales sur Twitter entre l'ambassade d'Iran à Beyrouth et les responsables israéliens sur l'expédition des pétroliers battant pavillon iranien vers les côtes syriennes au mépris des sanctions américaines, Foreign Policy réitère la théorie d'une guerre de longue date entre l'Iran et Israël, à un moment où les Israéliens et leurs alliés américains ont visé l'économie des deux pays clés de la résistance, la Syrie et le Liban. Pendant des années, l'Iran et Israël se sont livrés à des attaques réciproques contre leurs navires à l'intérieur et à l'extérieur de la Méditerranée. À l'époque, le conflit se concentrait principalement sur les pétroliers iraniens destinés à la Syrie, et maintenant le conflit s'est étendu au Liban, qui est de plus en plus au bord de l'effondrement économique, note Foreign Policy. L'analyste de la publication américaine reconnaît en quelque sorte que la portée des opérations navales de l'Iran pour défier les États-Unis et Israël a dépassé les eaux régionales, au point que l'Iran est désormais activement présent dans l'arrière-cour des États-Unis pour soutenir l'axe de la résistance au Venezuela en Amérique latine et pour dire qu'il restera aux côtés des pays faisant partie de la résistance au milieu de leur crise économique et énergétique jusqu'au dernier moment. Lors d'un entretien avec Foreign Policy, un chercheur à l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient et expert en sécurité et défense dans le Golfe Persique, Farzin Nadimi évoque des options visant à arrêter les missions énergétiques de l'Iran en faveur de la Syrie et du Liban. Il est techniquement impossible d'arrêter un navire dans les eaux internationales, à moins qu'il ne viole les règles maritimes internationales ou si le navire porte le pavillon d'un État. Si un navire est connu pour transporter des marchandises telles que de la drogue ou des armes de destruction massive, il existe des lois américaines qui autorisent l'arrêt et la fuite en haute mer. Ou que dans certaines circonstances, une telle action peut même être justifiée par la juridiction universelle. Le Congrès américain peut soit adopter une loi, soit le président peut émettre une ordonnance contre des pétroliers individuels et demander à d'autres États de les arrêter une fois qu'ils pénètrent dans leur réseau territorial ou de traiter eux-mêmes les sanctions. Quoi qu'il en soit, ce plan est estimé avorté par l'analyste de Foreign Policy.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le et Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va en fait aborder ces récents événements survenus en Irak. Il y a quelques jours, une forte explosion à Bagdad, plus précisément à Sadr City, a laissé des dizaines de morts et de blessés. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué cet attentat terroriste, cette attaque terroriste et cette, en quelque sorte, réactivation du groupe terroriste Daesh intervient à un moment où, à l'intérieur de l'Irak, il y a cette forte exigence pour, en fait, le départ, pour le retrait des forces d'occupation américaines du pays. Et cette exigence a été renforcée de plus en plus après, en fait, cette récente attaque américaine contre les positions de la résistance irakienne, si vous voulez, à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi est attendu aux États-Unis. En jugé par les informations, il va aborder avec le président américain le retrait des troupes US de ce pays. Et d'autre côté, si vous avez suivi l'actualité, vous en êtes rendu compte, la résistance irakienne insiste sur, en fait, le fait que qu'elle va, en fait, poursuivre son combat jusqu'au retrait du dernier soldat américain du pays. Et pour cette émission de débat, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, depuis Toulouse, un spécialiste français des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Norostin. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et bonjour à vos auditeurs et à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, M. Dortiguier, c'est une analyste franco-syrienne spécialiste des questions internationales, Mme Aïssar Midani, qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Mme Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Bonjour à M. Dortiguier et à toute l'équipe de STV.
Merci beaucoup. Bonne fête à vous et bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Madame Midani, je viens de lancer le sujet. Comment et expliquez-vous, si vous voulez, ces récents événements survenus en Irak, très particulièrement cette récente attaque terroriste à Bagdad, plus précisément à Sadr City, attaque qui avait été revendiquée par le groupe terroriste Daesh?
Absolument. Alors, vous l'avez bien dit dans votre introduction, c'est une réactivation de Daesh en réponse aux exigences du peuple irakien pour le départ inconditionnel de l'ensemble des forces américaines du territoire irakien. Et cette exigence, elle a été bien réaffirmée à plusieurs reprises. Les Américains non seulement refusent, mais sans le dire, mais de toute façon, ils accentuent à la fois les attaques. On a vu qu'ils accentuaient les attaques sur les frontières syriennes, irakiennes aussi. Ils se sont attaqués aux forces de Hashd al-Sha'bi en tuant des dizaines de militants de Hashd. De la même manière, ils activent aussi, et ce sont non seulement les attentats de type Daesh aussi, dans les grands souks et puis dans les grands marchés où il y a beaucoup de personnes qui sont victimes, mais aussi, je ne pense pas que... J'ose penser aussi que l'attentat concernant les hôpitaux, les incendies des deux hôpitaux d'ailleurs, ils ne sont pas loin non plus des attaques terroristes, hein, voire juste pour mettre en fait les semences d'une guerre confessionnelle à l'intérieur de l'Irak. Mais j'ose penser aussi que l'ensemble de la population et l'axe de la résistance sont aussi très, très vigilants contre ces attaques. Alors, je voudrais aussi signaler que ce n'est pas seulement en Irak que les attaques ont lieu, mais aussi contre tous les pays de l'axe de la résistance. Il y a une véritable escalade des Israéliens, en fait, de l'entité sioniste contre les Palestiniens. Il y a systématiquement, encore cette nuit ou la nuit dernière, des attaques contre la Syrie, des attaques israélo-américaines, en fait, parce que ce sont des avions israéliens qui partent de la base américaine d'Al-Tanf, qui est entre les frontières irakiennes et syriennes, et qui vont bombarder la ville de Sfera, qui est dans le sud d'Alep, hein, où il y a des bâtiments du centre de recherche. Il y a aussi, mais c'est sans arrêt, des attaques, soit contre les aéroports, soit contre Moscou, soit contre... Donc, on voit quand même que tout ceci, c'est une véritable offensive israélo-sioniste, israélo-américaine, sioniste, américano-sioniste, en fait, et aussi des pays occidentaux, de l'OTAN, contre l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. Donc aussi une accentuation de l'offensive saoudienne, voire en fait coalition américano-saoudienne, américano-israélo-saoudienne contre les résistants au Yémen, qui d'ailleurs remportent aussi de très grandes victoires d'ailleurs. Malgré tout ça, mais en fait, c'est une véritable agression caractérisée contre tous les pays de l'axe de la résistance, cherchant à maintenir au maximum et le plus longtemps possible la présence américaine d'une part, et servant au maximum aussi leurs alliés ou peut-être enfin, je ne sais pas qui est l'allié de qui, mais en tout cas. Leur protéger État sioniste de manière à ce qu'ils soient toujours présents et se défendant dans la région. Donc voilà, ça c'est. Mais je pense quand même que les derniers événements en Syrie, donc les élections. L'élection qui est absolument un événement. Grandiose de la participation de la population syrienne, en fait du peuple syrien, après 10 ans de guerre et malgré toutes les propagandes contre le président Assad, malgré tout l'argent dépensé par l'axe de l'agression, si je peux dire, contre le président Assad, ce grand événement, une élection presque à plébiscite à 95,1% des voix, et le fait qu'il ait prêté serment récemment, donc le 17 juillet, et dans lequel il a bien annoncé que de toute façon, non seulement nous ne serons jamais à genoux, mais que de toute façon, il a annoncé une nouvelle étape dans la construction, mobilisant tout le monde pour libérer les initiatives de la construction, compter sur nos propres forces et puis redémarrer le pays, mais en gardant la tête haute et en toute souveraineté, et que bientôt, de toute façon, la totalité du territoire syrien va être libérée. Donc il a affirmé le soutien à la résistance populaire syrienne qui se fait dans les pays vers le nord-est, donc en contact avec la résistance irakienne, mais aussi au nord-ouest, donc appelant à renforcer la résistance populaire et les alliances avec les autres composants du front de la résistance. Donc en fait, tout ceci, ça a peur, en fait, ça crée une peur et une méfiance chez les Américains et les sionistes. C'est pour ça qu'ils réagissent en bombardant la Syrie et en réactivant les forces, la Syrie et l'Irak d'ailleurs, et en réactivant les forces terroristes qui étaient d'ailleurs la création américaine, rappelons-le, est le prétexte pour que les Américains restent, soi-disant, ils restent pour combattre Daesh.
Ouais. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur Dortiguier, est-ce que vous aussi, tout comme Madame Midani, vous estimez qu'il s'agit là en fait d'une volonté de vouloir réactiver les forces terroristes?
Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec notre interlocutrice. Il y a bien sûr un dessein américain de le faire et une sorte de dépit, si je peux dire, devant le renforcement de l'axe de la résistance. Adam Israël a très très bien et très éloquemment, je veux dire, exposé. Je ferai un rappel, disons, de ce qu'a été la coalition militaire qui a duré, je crois, à peu près presque 9 ans en Irak. Est-ce que celle-ci a éradiqué le terrorisme ou est-ce que celle-ci n'a au contraire favorisé justement les semences du terrorisme par tous les moyens, c'est-à-dire soit en brisant l'unité de la société irakienne, soit disons enfin par tous les moyens qui ont fait que des gens comme Daesh et autres, ces sociétés ont pu, disons, trouver des militants. Je crois que c'est en ayant cassé l'Irak que justement le terrorisme dont on se plaint aujourd'hui en Irak a pu, disons, fleurir. Et on voit donc que cette arme du terrorisme n'est pas du tout un accident, mais elle est une constante dans cette guerre, on pourrait dire révolutionnaire contre révolutionnaire, cette guerre de subversion qui est menée en Orient, et cette guerre de subversion qui a commencé, Mme Israël l'a dit très bien, avec évidemment la naissance de l'entité sioniste, etc., dont on peut se demander, comme elle a très très bien dit, je m'excuse de réciter toujours, mais on se demande qui commande qui, bien sûr. C'est une sorte de roue infernale. Et je crois quand même qu'il faut retenir de façon positive, si j'ai pu dire, malgré le spectacle de ces victimes, que cette réaction terroriste est une réaction devant la défaite, justement, de ceux qui comptaient écraser la Syrie, écraser l'Irak, écraser ou désespérer, disons, tout mouvement de résistance, y compris en Palestine. Je crois que l'arme du terrorisme est une arme qui est, disons, coutumière à ces forces-là. Je poserai la question, comment l'entité sioniste dont on parle s'est-elle constituée? N'est-ce pas par le terrorisme?
Monsieur Dortiguier, est-ce que vous aussi, tout comme Madame Midani, vous estimez que là, il s'agit d'une offensive israélo-américaine?
Oh oui, bien sûr, car, disons, je dirais que, oui, bien sûr, ce sont des offensives, disons, qui tiennent non pas du tout à des considérations seulement militaires, mais qui tiennent à des considérations comme une subversion, c'est-à-dire l'usage, justement, du terrorisme. L'usage du terrorisme est une arme à la fois matérielle, politique et démoralisatrice. Elle consiste, disons, à frapper de façon aveugle et par là même à, disons, neutraliser la population. C'est-à-dire, justement, Madame Israël a très bien dit que un événement considéré était le grand succès de la mobilisation syrienne autour de son État et de son chef. Et ceci, justement, ne peut pas, disons, provoquer des contre-offensives, bien sûr, de la part des forces américano-sionistes. Mais, disons, leur seule arme, c'est la démoralisation. C'est-à-dire continuer la guerre, à la fois pour pouvoir maintenir la misère, bien sûr, mais également faire perdre confiance dans les chefs, dans la politique aux populations, voyez-vous. C'est-à-dire, finalement, non pas les dresser tant contre leur État que de les rendre indifférentes à l'action de l'État. Et je crois que c'est l'arme des faibles, disons. Je dis bien que c'est l'arme des faibles parce que devant la force des peuples, évidemment, ce sont seulement des hypocrites ou des gens qui se déguisent avec de façon ou d'une autre qui peuvent, disons, vouloir l'imposer. Mais je crois que le voyage là, du Premier ministre irakien aux États-Unis sera justement sur arrière-plan, des envoyés de ces attentats. Et je crois que c'est une manière d'exercer aussi une pression sur lui, car évidemment l'administration de M. Biden, comme l'administration de M. Bush, mais de M. Bush, de M. Trump, mais disons, peut-être de façon plus acide, disons, est évidemment entre les mains de ces forces qu'on appelle américano-sionistes, bien sûr, et donc je crois que il faut que les Irakiens s'attendent évidemment à avoir affaire à un adversaire beaucoup plus dangereux qu'ils ne l'imaginaient.
Madame Midanit, en fait, cette réactivation du groupe terroriste, des forces terroristes, que ce soit en Irak, en Syrie, Yémen également, ces agissements consistant aussi à déstabiliser de plus en plus le Liban, tout cela ne va pas, d'après vous, rendre, si vous voulez, l'axe de la résistance, le peuple, si vous voulez, de ce pays, de plus en plus déterminé à poursuivre, si vous voulez, leur bataille et obtenir, si vous voulez, le départ des forces d'occupation.
Absolument. En fait, ça ne fait qu'augmenter la détermination des peuples à se libérer, de l'ensemble des peuples de l'axe de la résistance à se libérer et à améliorer, en fait, la coordination entre les différentes composantes de cette résistance. Je voudrais rendre hommage au général Qassem Soleimani que les Américains ont, et au général aussi Al-Mohandes, que les Américains pensaient en ayant assassiné de manière complètement vile et sale, je dirais. Ils pensaient quand même en faisant ça qu'ils allaient arrêter toute résistance. Or, dans la réalité, cet assassinat criminel, en fait, a mobilisé 10 fois plus les troupes, et on disait que de toute façon, même déjà à ce moment-là, s'il y a un Qassem Soleimani qui tombe, il y a des milliers qui vont relever le flambeau, et de la même manière, s'il y a Abu Mahdi al-Mohandes qui tombe, il y aura des milliers et des centaines de milliers qui relèveront le drapeau. Et ça, c'est la réalité, en fait. Quand il y a un résistant qui tombe, il y en a d'autres, des milliers d'autres qui relèvent le drapeau et qui continuent la lutte parce qu'ils ont fait école, en fait, de résistance et ils ont effectivement initialisé non seulement au niveau de la résistance militaire, si vous voulez, mais ils ont initialisé une idéologie de résistance et une volonté d'indépendance et de souveraineté qui ne pourra jamais cohabiter avec des demi-mesures et des oui et non comme les Américains voudraient, parce que depuis longtemps, ils prétendent vouloir se retirer, mais ils restent quand même, ils laissent des quantités, un nombre important de leurs troupes dans l'ambassade, soi-disant des conseillers, n'est-ce pas ? De la même manière, en fait, en même temps, d'ailleurs, ils font venir énormément de munitions et même d'armes lourdes, en fait, des chars, des blindés, etc., en Syrie, à leurs alliés Qassad, les FDS, qui sont rien que leurs laquais et qui sont habitués, en fait, qui continuent à agresser la population. Ils continuent aussi, les Américains continuent à augmenter leurs effectifs dans les bases Al-Tanf, dans la base autour des puits de pétrole Omar et Conoco, et aussi ils continuent aussi à piller le grain syrien, le coton, etc., toutes les récoltes aussi dans la région, tout en attaquant l'armée syrienne et la résistance irakienne. Et aussi la résistance, leurs laquais et leurs valets, Qassad, ils envahissent les maisons, ils arrêtent les résistants et ils essayent de les enrôler de force dans leurs troupes ou alors les kidnapper pour les amener ailleurs. Alors on voit aussi d'un autre côté l'utilisation de ces troupes de Daesh et des mercenaires qui sont liés à la fois aux Américains mais aussi aux Turcs, disons-le, qui sont aussi dans le nord de la Syrie. Aujourd'hui, il y a un travail aussi de recyclage de tous ces Daesh qui ont été battus, vaincus, etc. Il les réentraîne, il les kidnappe et il les amène à la base Al-Tanf où ils subissent des entraînements importants et après ils sont recyclés. Une partie en Irak, en Syrie, en Afghanistan, en
Merci
Libye
beaucoup.
et ça continue. Donc en fait, c'est les Américains, les quelques bases américaines là qui sont dans la région en Irak, en Syrie, deviennent vraiment une plateforme tournante de fabrication de terroristes qu'ils envoient partout pour attaquer le monde entier. Donc,
Merci beaucoup.
Et ça, c'est vraiment l'outil des Américains.
Monsieur Dortiguet, vous venez d'entendre les explications de Madame Midani, en fait, et de cette réactivation des terroristes, que ce soit en Irak, en Syrie, au Yémen. Madame Midani vient de faire allusion également à l'Afghanistan. C'est un projet bien calculé.
Oui, en effet, c'est un projet très bien calculé. Je veux dire que nous ne pouvons que féliciter vraiment de tout cœur Mme Nizali de ce tableau qui est vraiment bien réel et bien saisissable de tous. Il s'agit là, bien sûr, d'un plan qui s'exécute, qui est ancien et qui se maintient. Et je crois que grand intérêt de ce que vient de nous dire Mme Nizali, c'est de montrer qu'il y a non seulement un faux départ américain, si je puis dire, mais en même temps un investissement américain dans l'Amérique et sioniste, bien sûr, dans cette guerre qui est large, qui n'est pas seulement une guerre de Syrie, qui n'est pas une guerre d'Irak, mais qui vise l'ensemble de l'Orient, et leur but, ce n'est pas simplement de faire tomber un État, leur but est aussi de maintenir tous ces pays dans une insécurité constante. C'est une sorte de guerre, si je puis dire, révolutionnaire, mais dans le sens, des forces obscures. Vous savez, on peut dire le diable aussi, c'est révolution. Eh bien, là, je crois que nous sommes dans l'exécution d'un plan ancien, d'un plan mûri. Et je dois dire qu'il faut prendre cette image qu'a donnée Mme Mitraille de fabrication de terroristes, voyez-vous, comme un laboratoire où ils les fabriqueraient. Exactement, il faut le prendre à la lettre.
Merci beaucoup.
Et alors, c'est tout ce que je peux dire.
Merci infiniment, Monsieur Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Madame Aïssa Midani, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui.
Merci.
Depuis Damas. Merci beaucoup pour cette présence. Cette fois-ci, vous êtes à Damas. Merci beaucoup. Depuis Damas, Madame Midani. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Le Mazan Dalan, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazan Dalan l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazan Dalan est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Le groupe takfiriste Hayat Tahrir al-Sham expulse les terroristes tchétchènes d'Idlib. Après que le Hayat Tahrir al-Sham a déclaré au groupe terroriste tchétchène Jund al-Sham qu'il pouvait soit rejoindre ses rangs soit quitté Idlib, les membres du groupe ont évacué leur position militaire dans la campagne de Latakia. Des sources bien informées parmi les groupes takfiristes ont déclaré à Al-Monitor que le groupe tchétchène Jund al-Sham, soldat du Levant, a cédé aux pressions du Hayat Tahrir al-Sham et a évacué ses positions militaires dans les montagnes de Latakia. Les sources ont indiqué que de nombreux membres de Jund al-Sham ont laissé leurs armes et sont allés avec leurs familles vivre dans la campagne de Jisr al-Jugur en réponse aux demandes du Hayat Tahrir al-Sham qui avait donné au groupe le choix de se dissoudre ou de rejoindre ses rangs. Selon les sources, le Hayat Tahrir al-Sham avait donné à Jund al-Sham un délai pour se dissoudre ou être contraint de le rejoindre. Lors des réunions entre les dirigeants du Hayat Tahrir al-Sham, dirigés par Abu Maria al-Ghartani et 5 dirigeants de Jund al-Sham, dirigé par Muslim al-Shishani, al-Ghartani a rejeté toutes les solutions proposées par Shishani et a insisté pour que la faction soit dissoute. Le 2 juillet, Shishani a partagé les détails de sa rencontre avec le Hayat Tahrir al-Sham, affirmant que son groupe avait été invité a quitté Idlib. Nous avons reçu une convocation du commandant du service de sécurité générale du Hayat Tahrir al-Sham et le lendemain, je suis allé avec d'autres membres pour le rencontrer. Il m'a demandé de dissoudre le groupe et de quitter Idlib et il m'a dit que c'était une décision finale car le Hayat Tahrir al-Sham contrôler Idlib et ne permettrait à personne d'y désobéir, a déclaré Shishani dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Il a ajouté « Jund al-Sham n'a jamais participé à aucune confrontation contre le Hayat Tahrir al-Sham et ne s'est jamais engagé dans des combats entre factions depuis sa formation il y a 8 ans. Comment peut-on demander de partir après que nos dirigeants et membres sont devenus internationalement recherchés pour avoir combattu en Syrie ? Abbas Sharife, un chercheur basé en Turquie sur les groupes takfiristes, a déclaré à Al Monitor, Cundalsham s'est dissous en réponse aux demandes du Hayat Tahrir al-Sham. Ont-ils vraiment accepté cela ou est-ce pour le spectacle? Cela ne dérange pas le Hayat Tahrir al-Sham si les membres du Cundalsham combattent toujours le gouvernement syrien individuellement tant qu'ils ne font pas partie d'une faction. Il a ajouté, le Hayat Tahrir al-Sham essaie de redessiner le paysage terroriste à Idlib et d'ajouter les combattants des groupes qu'il dissout dans ses rangs. Il veut montrer aux parties étrangères qu'il combat et élimine les groupes takfiristes à Idlib. Il a noté, parce que Cundalsham s'est dissous, cela ne pose pas de problème pour le Hayat Tahrir al-Sham. Les membres de Cundalsham resteront en tant qu'individus à Idlib et certains pourraient se diriger vers les zones contrôlées par l'armée syrienne libre affiliée à la Turquie. Il ne rejoindra pas le Hayat Tahrir al-Sham pour des raisons idéologiques. Pendant ce temps, les talibans ne recherchent pas de nouveaux membres, donc très peu d'anciens combattants de Cundalsham finiraient par le rejoindre. Sharife a souligné que le Hayat Tahrir al-Sham refait la scène takfiriste avec uniquement des ressortissants syriens pour montrer qu'elle est attachée aux accords internationaux. Un ancien chef takfiriste surnommé Abu Abdelrahman al-Shami, qui réside à Idlib, a déclaré à Al-Monitor. Certains des petits groupes syriens affiliés à Cundalsham ont décidé de remettre leurs armes et de rester sur l'inaction pour le moment. Ils ont refusé de rejoindre le Hayat Tahrir al-Sham et attendent une entité globale qui représente l'ensemble de la force militaire locale à Idlib. Si Shishani ne va pas en Turquie, il pourrait se diriger vers l'Afghanistan. Mais aller en Afghanistan nécessite une coordination avec les talibans. Al-Shishani peut choisir de dissoudre la faction, mais il parviendra probablement à un accord privé avec le Hayat Tahrir al-Sham qui profitera aux deux parties, a-t-il noté. Al-Shami a ajouté que toutes les petites formations de combattants non syriens et de rebelles locaux qui s'opposent au Hayat Tahrir al-Sham et refusent de le rejoindre subiront le même sort que Cundalsham. Abu Khaled al-Muhajer, un chef takfiriste proche de Cundalsham, résident dans la campagne d'Idlib, a déclaré à Al-Monitor « Cundalsham ne s'est pas complètement dissous, mais il n'a plus de présence sur le terrain. Le groupe fera une annonce officielle dans quelques jours et ses guerriers resteront des individus combattant le gouvernement syrien. Ils ne pourront pas se rendre dans leur pays d'origine, car ils sont recherchés par les services de sécurité là-bas. Il vaudrait mieux qu'ils restent et combattent le gouvernement syrien, mais sans faire partie d'un groupe à Idlib. Il a ajouté, le Hayat Tahrir al-Sham essaie d'établir un État et ne veut aucune concurrence. Pendant ce temps, certains anciens combattants de Cundalsham pourraient se rendre en Turquie et vivre comme des civils avec leur famille, tandis que d'autres pourraient aller en Afghanistan. Mais Al-Shishani ne quittera pas la Syrie et le Hayat Tahrir al-Sham pourraient l'arrêter dans les prochains mois pour éliminer toute menace qu'il pourrait représenter. Un dirigeant du Hayat Tahrir al-Sham, résident à Idlib, a déclaré à Al-Monitor, sous couvert d'anonymat, « Le Hayat Tahrir al-Sham est en train d'établir un État et il n'y aura aucun groupe au sein de cet État qui ne soit pas sous son égide. Le Hayat Tahrir al-Sham ne permettra donc à aucun groupe d'opérer de manière indépendante, car il travaille à établir une institution unifiée. Ce n'est plus ce qu'il était il y a des années, un groupe qui alors acceptait l'existence d'autres groupes. La situation est complètement différente aujourd'hui. »